France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Autoritarisme, mensonge, désignation de bouc émissaire, réorganisation de l'ordre mondial basé sur la puissance et plus sur le droit, règne de l'arbitraire, brutalité, contrôle social et culturel. Le trumpisme est-il un fascisme? Pour traiter de cette terrible question, et la réponse est complexe, on s'en doute, j'ai convié trois invités spécialistes de l'histoire du fascisme, des nouvelles idées réactionnaires, conservatrices et révolutionnaires de droite qui ont cours aux États-Unis en ce moment, et aussi du monde numérique qui favorise l'épanouissement de ces idées. Avec nous ce soir donc Marianne Matar-Bonucci, historienne spécialiste du fascisme, du totalitarisme et de l'antisémitisme, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, autrice, entre autres, de Totalitarisme, Fascisme, CNRS Édition. Avec nous aussi Arnaud Miranda, docteur en théorie politique, associé au CEVIPOF, et David Chavalarias, mathématicien, directeur de recherche au CNRS et au Centre d'analyse et de mathématiques sociales à l'EHESS, auteur de Toxic Data chez Flammarion, et très bientôt, je crois le 6 juin en librairie, de Elon Musk en 50 tweets au seuil.
Elon Musk entre en scène dans un état d'excitation plus que visible. À deux reprises, il frappe sa poitrine avant de tendre son bras. Depuis hier soir, plusieurs personnalités issues de l'extrême droite ont salué la gestuelle du patron de SpaceX.
Pensez-vous que Donald Trump est un fasciste ?
Oui, je le pense. Et je crois aussi qu'il faut faire confiance aux personnes qui le connaissent le mieux sur ce sujet.
Alors on va commencer par vous, Marianne Matar-Bonucci, parce que la dernière fois qu'on vous a reçu, c'était pour notre série sur les fascismes, et on avait commencé l'émission en vous demandant si le trumpisme, Donald Trump venait juste d'être élu, était un fasciste. Et vous nous aviez répondu que, évidemment, le populisme, le nationalisme, la xénophobie, la violence, au moins verbale, faisait penser au fascisme, mais il manquait quelque chose, peut-être. C'était le projet de révolution anthropologique et vous nous disiez-vous, on en reparlera dans quelques mois, nous y voilà. Alors, on va discuter de tout ça, mais d'abord je voudrais, Marianne Matar-Bonucci, que vous nous rappeliez la définition du fascisme. Quand est-ce que le mot est né et qu'est-ce qu'il recouvre ?
Bien, ça nécessiterait plusieurs heures d'émission,
ah oui,
mais
déjà
on va essayer.
On peut télécharger, on a trois heures d'émission.
Alors,
à télécharger déjà.
Le mot apparaît lorsque le fascisme mouvement apparaît, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, en Italie. Donc, pour ce qui est de la définition, il y a eu des débats infinis sur la définition entre politistes, historiens. La difficulté, je dirais avant, et puis je vais vous en proposer une, mais elle est triple. Elle est que donner une définition en histoire, c'est prendre le fascisme tel qu'il a été à un instant T. Or, le fascisme a un caractère évolutif. L'autre difficulté, c'est que le fascisme n'est pas un isme comme les autres, puisqu'il préfère l'action à la théorie. Et enfin, les doctrines et les pratiques ont pu évoluer considérablement. Donc, il faut savoir à quel moment on parle. Donc, il y a des historiens, c'était le cas de Paxton, qui propose une définition à caractère un peu chronologique, vous voyez. Alors, je vais vous en proposer une, qui est celle que j'ai mise au point pour le livre que j'écris. On peut parler de fascisme pour un mouvement ou un système politique ultranationaliste, le mot est important, opposé à la philosophie des Lumières, au libéralisme, au communisme. L'historien Zev Sternel disait le fascisme, c'est les anti-lumières, hein, si on veut la ramener les choses à une phrase, qui veut transformer la société et l'individu par la dictature d'un parti unique ou de l'État et de la violence. Voilà. Alors, sur la base de cette définition-là, en supposant qu'on l'accepte, mais il y a des gens qui proposent des définitions beaucoup plus courtes. Je ne vais pas vous en faire l'inventaire ici, comme il y en a d'autres. Umberto Eco, on le cite beaucoup en ce moment, qui propose 14 critères pour identifier le fascisme. Donc au fond, le débat est quand même beaucoup lié au fait de savoir d'où on part et à partir de quelle conception du fascisme on réfléchit.
Ouais, alors voilà. Vous nous avez parlé de définition académique, politique, il y a aussi une définition beaucoup plus nébuleuse et plus large. Dans le débat public et chez tout le monde, on se traite même de fasciste. C'est un anathème. Fasciste, c'est un peu toute l'extrême droite. C'est pour ça que c'est compliqué à appréhender. Mais on va essayer de rentrer un petit peu aujourd'hui dans les détails. Et je voudrais demander à Arnaud Miranda, qui est spécialiste de toutes ces nouvelles idées qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'ultralibéralisme ou du libertarianisme. Quand on a entendu Kamala Harris, c'était le dernier son de ce petit medley qu'on a entendu en début d'émission, qui dit « oui, c'est un fascisme ». Quand vous entendez la définition ou les définitions proposées par Marianne Matarbonucci, comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous?
Je pense peut-être que la première chose à dire, c'est que je généraliserai pas. C'est-à-dire, je pense qu'il est quand même assez difficile de dire que le trumpisme est un fascisme sans, identifier certains courants à l'intérieur du trumpisme. Une collègue politiste, Marlène Laruelle, parlait des trois corps de Trump pour parler des trois courants idéologiques derrière ce qu'on pourrait appeler le trumpisme aujourd'hui.
Alors, je vous interromps déjà parce que peut-être qu'il faut qu'on clarifie cette chose. Le trumpisme comme isme, ça va pas, parce que le isme induit une idée, une idéologie, une théorie, et Trump, maintenant, on a bien compris que c'était tout pour lui, pour ses intérêts. Peut-être que le trumpisme est un véhicule, et on essaye de voir aujourd'hui quelle est la charge idéologique de ce véhicule, même peut-être à ses dépens. Donc, le trumpisme, presque n'en parlons plus, mais les fascismes ou non, entre guillemets, qui sont sa cargaison.
Alors, donc, ces trois corps de Trump, ce sont Bannon, Musk et Vance pour Marlène Laruelle. Et je trouve que c'est assez juste puisqu'il y a une sorte d'énigme idéologique. C'est comment, finalement, s'articule derrière Trump ces trois courants. Donc, qui seraient incarnés chez Musk par une sorte de techno-libertarianisme, derrière Vance par une forme de catholicisme conservateur, à mon avis, qui va un peu plus loin que le conservatisme aujourd'hui, et finalement Bannon, qui était finalement la figure peut-être, ou le courant majoritaire durant le premier mandat, qui est finalement une forme de national-populisme. Et peut-être que ce qui est l'énigme, c'est comment est-ce que, idéologiquement, Trump arrive à rassembler ces courants. Et je crois que ce qui fait le ciment, en fait, de cette constellation idéologique, c'est une pensée qui a émergé à peu près dans les années 2010, et qu'on pourrait appeler la pensée néo-réactionnaire, ou que certains ont renommé la pensée des Lumières Sombres, Dark Enlightenment.
C'est intéressant, Lumières Sombres, on y reviendra, parce que Marianne Matarbonucci nous disait que le fascisme était un anti-lumière. Alors, cet oxymore Lumières Sombres peut valider cette vue.
Absolument, et je pense que s'il faut chercher du fascisme, c'est du côté de l'idéologie en particulier, pas tellement de la mise en place politique des politiques, ou en tout cas pas encore. Et sur un plan idéologique, si l'on doit trouver des éléments de fascisme, je crois qu'il faut aller les chercher dans cette pensée néo-réactionnaire, donc qui est incarnée aujourd'hui la figure de Proust et Curtis Yarvin, dont on reparlera
peut-être.
Alors
on va en parler.
Et notre figure, qui me semble aussi très complémentaire, qui est Nick Land, qui est un philosophe britannique, qui est très peu étudié aujourd'hui, en tout cas très peu connu, très peu mis sur le devant de la scène, mais qui est un petit peu la figure complémentaire de Curtis Yarvin pour comprendre cette pensée néo-réactionnaire qui, à mon avis, idéologiquement, fait un petit peu le ciment de cette...
C'est le ciment. On va revenir à Curtis Yarvin tout à l'heure. Vous en êtes un des spécialistes. Il n'est pas très connu en France. On a quelques enregistrements qu'on va vous soumettre et qu'on va commenter. David Chavalarias, vous, parmi ces trois personnages, Bannon, Vance et Musk, vous êtes intéressé plus particulièrement, c'est votre spécialité aussi, les nouvelles technologies et les algorithmes, à Elon Musk. Est-ce qu'il y a du fascisme dans Musk? Vous avez étudié ses tweets. Vous allez publier très prochainement un livre sur les tweets d'Elon Musk. Que disent ces tweets?
Alors, Elon Musk est un petit peu un cas à part parce qu'il a vraiment une vision assez spéciale de ce qu'est l'humanité et sa propre mission sur Terre. Mais dans le dispositif Trump, ce qui est intéressant, c'est que Elon Musk, c'est en gros, une petite main pour la mise en place d'un état de surveillance. Et comme il est donc très technocratique, on va dire, Musk lui permet en fait de mettre en place cet état. Alors déjà avec X, qui lui sert à surveiller déjà les personnes qui sont sur X, notamment avec ses IA, mais aussi donc à la tête du Doge, où il a démantelé une grande partie de l'administration de l'État fédéral.
Et donc le Doge, on le rappelle, juste, c'est ce ministère chargé, créé uniquement pour Elon Musk, chargé de faire le ménage dans l'administration et de chasser toutes les dépenses inutiles. Et derrière ce terme, il y a une exception très large, évidemment.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, c'est presque aussi assez lié au fascisme, c'est-à-dire utiliser des mots pour ce qu'ils ne sont pas et introduire une nouvelle langue comme l'efficacité, et essayer de mettre en avant l'efficacité. Mais donc, par exemple, juste pour mentionner ce qu'est en train de faire Elon Musk avec le Doge, c'est qu'ils sont en train de rassembler dans une unique base de données toutes les bases de données des différentes agences fédérales américaines de manière à pouvoir identifier plus facilement les individus problématiques. Et ça va à l'encontre en fait d'une loi qui avait été votée aux États-Unis pour la protection de la vie privée, où ils avaient délibérément fragmenté les différentes bases pour éviter qu'un État autocratique éventuellement mette la main dessus et s'en sert pour la surveillance. Et là, c'est exactement ce qu'est en train de faire Elon Musk. C'est-à-dire, il arrive avec ses équipes dans les agences. Il demande un accès au nom, avec un laissez-passer Maison Blanche, au système informatique. Il aspire les données et après, il les met toutes ensemble pour pouvoir faire une espèce de base de données consolidée de l'ensemble des Américains. Et ça fait partie, en fait, vraiment...
Alors, c'est royal.
Voilà, mes collègues sont plus spécialistes du fascisme que moi, mais on voit vraiment que c'est un moyen indispensable de contrôle des populations et qui est vraiment mis en œuvre à une échelle sans précédent.
Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec les historiens et historiennes Marianne Matarbonucci et Arnaud Miranda et avec le mathématicien David Chavalarias.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Alors, Marianne Matarbonucci, vous voyez dans ces méthodes et ces techniques une modernisation du fascisme originel ?
Ben, en tout cas, c'est clair que bon, l'une des différences majeures, ça a déjà été dit par rapport au modèle historique du fascisme, c'est la question de la violence. Il y a eu le Capitole, mais pour le moment, il n'y a pas de squadre dans les rues, de milices, etc. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que on peut peut-être faire l'économie de la violence, justement, grâce à ces instruments de contrôle d'une puissance extraordinaire qui, évidemment, n'existait pas à l'époque. Hein. Donc là, il y a un élément, effectivement, qui peut faire penser, vous disiez c'est orwellien, à la réalisation d'un projet de contrôle social qui est une caractéristique fondamentale du fascisme. Tout
David
à fait.
Chavalarias.
Oui, juste pour compléter, en fait, la violence, on la voit déjà affleurer quand même, et même plus qu'affleurer. C'est-à-dire que ces bases de données sont déjà utilisées pour faire de la déportation de masse, les expulsions massives. Il faut rappeler quand même que l'objectif de l'administration Trump, c'est 10 millions de personnes expulsées en 4 ans. Dans la même période, les nazis ont fait 2,7 millions. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir faire de l'efficacité, au sens du Doge.
Il va falloir passer à une vraie violence physique.
Et il y a un échange qui est très, on va dire, symptomatique entre cet état d'esprit entre Trump et le président du Salvador, donc où il a envoyé plusieurs dizaines de personnes sans aucun procès dans une prison qui est un trou noir, incommunicado, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent là-bas ne peuvent plus parler à personne. Ils peuvent même plus se défendre. Et donc, dans cet échange avec le président du Salvador, le président du Salvador lui explique que pour rétablir la sécurité dans un pays, eh bien, ça vaut bien la peine de quelques erreurs. Et qu'en fait, si lui, il avait été accusé de manière très violente d'avoir mis des gens en prison, il dit non, moi, j'ai pas mis des gens en prison, j'ai libéré mon peuple. Et il a dit à Trump, vous avez à libérer 350 millions de personnes. Donc, quand vous êtes dans cet état d'esprit, eh bien, vous allez déployer des méthodes qui vont de fait être violentes, parce qu'en fait, elles vont être approximatives, et vous allez mettre en prison ou dans des trous noirs des gens qui sont complètement innocents.
Arnaud Miranda ?
J'aurais peut-être un petit peu plus de prudence sur cette question, puisqu'à mon avis, il ne faut pas passer immédiatement de l'autoritarisme au fascisme, simplement parce qu'il y a usage de la violence. À mon avis, la violence doit être au service d'un projet anthropologique, dans le fascisme en tout cas. Et ici, c'est plus une forme de violence arbitraire qui se manifeste, qui, pour le cas de la politique migratoire, aussi autoritaire et problématique qu'elle soit, ne me semble pas spécifiquement fasciste.
Alors justement, le projet de révolution anthropologique, c'était un des aspects, Marianne Matarbonucci, de la définition acceptée par tous du fascisme. Est-ce que vous voyez dans ces propositions autour de Trump, autour de Bannon, Vance ou Musk, dans ces idéologies, quelque chose qui peut ressembler à un projet anthropologique? Je crois, Arnaud Miranda, que vous dites que ces trois propositions n'ont pas grand-chose à voir avec les suprémacistes blancs, avec le fascisme américain qui n'a jamais émergé au niveau du pouvoir, mais on connaît l'histoire Lindbergh, on connaît le Ku Klux Klan, évidemment. Il faut différencier ce racisme-là des, peut-être, néo-fascisme, en tout cas de l'autoritarisme aujourd'hui.
Alors oui, la distinction me semble importante à faire entre la pensée néo-réactionnaire dont Curtis Yarvin et la figure de Proulx, et Nick Land aussi dont j'ai parlé, est une figure importante, et le suprémacisme blanc. La distinction me semble pouvoir être résumée en très peu de mots. Pour les néo-réactionnaires, le suprémacisme est une forme dévoyée de la démocratie. C'est un mouvement de masse, c'est finalement une forme de populisme, et la pensée néo-réactionnaire et les technolibertariens qu'elle a finalement réussi à convertir sont dans une perspective élitiste. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de la démocratie. En tout cas, Yarvin professe une transformation de régime, une fin de la démocratie, et donc s'oppose aussi au mouvement de masse avec lequel il identifie le suprémacisme.
On va vite revenir à Curtis Yarvin. Est-ce que vous voyez, Marianne Matera Bonucci, maintenant un projet de révolution anthropologique? Par exemple, on parle de augmenter, on valorise le QI, le quotient intellectuel.
Non, d'un point de vue de non-spécialiste de la situation américaine, mais simplement de lectrice de la presse, et en vous entendant, je me demande si c'est peut-être pas Musk qui est le plus porteur, mais vous nous le direz, de ce projet, en ce sens qu'on a le sentiment quand même chez Musk qu'il y a vraiment l'idée de forger, même pas une nouvelle nation, mais une nouvelle humanité. Et donc peut-être est-ce plutôt de ce côté-là, alors qu'en effet, on a le sentiment à entendre Trump et le slogan « Make America Great Again », que là, on est vers la réaction.
Ouais. Hein,
et le mot « réactionnaire », on l'entend très peu dans les débats actuels. Or, ça fait sens quand même aussi, me semble-t-il, pour caractériser, parce que je me demande s'il n'y a pas chez une partie de l'électorat, mais vous nous le direz, une forme d'immense aussi nostalgie sur ce qu'a été l'Amérique des boomers, justement, les Trente Glorieuses.
Il y a un mélange de cette nostalgie.
Voyez, donc je pense qu'il y a un mélange des deux.
Et de fantasmes de l'avenir, parce que Arnaud Miranda, vous parlez aussi, vous êtes un peu spécialiste de ce qu'on appelle les accélérationnistes et du long-termisme. Dans le long-termisme prôné par Musk, par exemple, est-ce qu'on peut voir aussi le projet, le fascisme ou le nazisme Milan qui se projetait à Milan? Est-ce que c'est abusé de dire des choses comme ça?
Alors, je pense pas que ce soit absurde du tout. Peut-être revenir pour clarifier les choses sur le terme néo-réaction. Pourquoi est-ce que j'utilise le terme de néo-réaction? La pensée réactionnaire, très, très succinctement, s'oppose à la pensée conservatrice qui veut simplement préserver des valeurs morales ou religieuses. La réaction réagit contre le présent, veut changer l'ordre politique. Et là, ici, on parle de néo-réaction. Alors, pourquoi néo-réaction? Parce que cette pensée réactionnaire qui essaie de changer l'ordre politique ne le fait pas comme les pensées des années 20-30, c'est-à-dire dans une perspective très regardant l'ordre légitime passé. Ici, elle se projette dans le futur, et c'est là qu'on parle d'accélérationnisme, c'est-à-dire que chez les néo-réactionnaires, il y a une technophilie qu'il n'y avait pas chez les réactionnaires. Il y a une projection vers ce qu'on pourrait appeler un transhumanisme, c'est-à-dire un dépassement de l'homme. Et s'il y a un projet anthropologique derrière la néo-réaction, c'est dans cette projection transhumaniste. Les inégalités ne sont pas à fonder sur une sorte de vision passée légitime, voilà, d'un ordre pur, à rien ou autre, mais sur une inégalité à venir entre les transhumains, ceux qui auront su se rendre supérieurs, et ceux qui n'auront pas eu les moyens de le faire.
David Chavalarias, vous avez épluché les tweets de Elon Musk. Alors, on dit toujours les tweets alors que c'est X, c'est pas grave, oui. Disons toujours les tweets. Est-ce que vous voyez cette idée de transhumanisme, de révolution anthropologique New Age?
Alors, lui, Elon Musk, il est vraiment plus sur l'idée de long-termisme, même si je pense qu'il a, évidemment, comme il a assez à son entreprise, par exemple Neuralink, il est aussi sur le côté hybridation homme-machine, mais il est vraiment sur l'idée que sa mission est de sauver l'humanité en lui permettant de survivre au-delà d'une éventuelle disparition de la Terre. Et donc, quand vous pensez comme ça, ça veut dire que vous imaginez que votre but ultime, c'est d'aider l'humanité à coloniser d'autres planètes et d'éviter les risques d'extinction. Et pour cela, vous êtes prêt à sacrifier une partie de l'humanité actuelle, puisqu'en fait, c'est ce qui permettra, sur le très long terme, en fait, à l'humanité de se déployer sur d'autres planètes. Donc, il y a vraiment une idée. Et lui, d'ailleurs, il se positionne lui-même, comme la personne qui va faire passer une des sept étapes de la vie, donc unicellulaire, multicellulaire, on sort de la mer, etc. Et lui dit, la prochaine étape, c'est aller sur une autre planète. Et c'est sa mission sur Terre.
Alors, Marianne Mattarmonucci, le chaînon manquant dans la définition, c'est-à-dire la révolution anthropologique, on en voit déjà un petit bout. Alors, c'est pas du tout la même révolution que voulaient les fascistes ou les nazis, évidemment. Mais il y a une redéfinition de cette révolution anthropologique.
Absolument, les fascistes se contentaient de vouloir dominer la planète, et là on est à l'échelle de l'univers, ouais. Donc il y a en effet cette dimension-là est présente.
Alors je voudrais vous faire écouter la voix d'une star du libertarianisme, Ayn Rand, cet auteur très connu aux États-Unis, un peu moins en France, qui nous parle d'altruisme. L'altruisme, c'est pas bien.
Dire que je n'aime pas l'altruisme, le mot est trop faible. Je pense que l'altruisme est le mal. Car nous allons vers toujours plus de collectivisme et de socialisme. Et si nous prenons cette direction, c'est uniquement à cause de notre morale altruiste.
Capitalisme ne dit pas aux hommes de souffrir. But to pursue enjoyment and achievement.
Le capitalisme ne dit pas aux hommes de souffrir, mais de rechercher le plaisir et le succès
here on earth.
Ici-bas.
Capitalism does not tell men to serve and sacrifice.
Le capitalisme ne dit pas aux hommes de servir et de se sacrifier,
but to produce and profit.
Mais de produire et de profiter.
Capitalism does not preach passivity, humility, resignation.
Le capitalisme ne prêche pas la passivité, l'humilité et la résignation,
but independence,
mais l'indépendance,
self-confidence,
la confiance en soi,
self-reliance,
et l'autonomie.
Arnaud Miranda, qui était Ayn Rand? Et quelle est sa place dans ce qui se passe aujourd'hui, dans la révolution politique trumpienne?
Alors, c'est une figure du libertarianisme majeur aux États-Unis, un peu moins bien connue en France, il faut le dire. Alors, peut-être pour faire le lien avec la pensée néo-réactionnaire dont je parlais tout à l'heure, pour comprendre une figure comme Curtis Yarvin ou plus largement la pensée néo-réactionnaire, il faut comprendre que ce sont des libertariens déçus. Donc, ils font le constat d'Ayn Rand, mais finalement, on est allé plus loin et on considérait que le libertarianisme était une forme d'utopie irréaliste et qu'il fallait changer de projet politique, c'est-à-dire non pas simplement considérer qu'il fallait en quelque sorte démanteler l'État, mais le réaffirmer comme moyen de développer le capitalisme de la manière la plus efficace. Donc il y a eu quand même une transition.
Une sorte de capitalisme total.
Voilà, il y a eu une transition dans la tradition libertarienne et un passage vers non seulement une critique de la démocratie dans un premier temps, avec notamment des auteurs comme Murray Rothbard ou Hans Hermann Hoppe, qui ont critiqué la démocratie comme étant insuffisamment pro-capitaliste, et notamment Hans Hermann Hoppe réfléchissait, alors il était lui anarcho-capitaliste, donc plutôt pour un recul de l'État, mais il disait s'il fallait choisir entre la démocratie et la monarchie est plus efficace, ouais, pour protéger le capitalisme.
Et on va voir que c'est aussi l'avis de Curtis Yarvin.
C'est cette transition qui nous, d'accord, mène à la néo-réaction.
Oui, il y a aussi une branche de gauche avec Murray Bookchin, par exemple, du libertarianisme, qui a donné une sorte d'écologie radicale, mais ça c'est autre chose. Marianne Mattarmonucci, le fascisme et le capitalisme. Vous avez dit que le fascisme était un anti-libéralisme au sens politique du terme. Fascisme et capitalisme, quel est le lien et comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre de Ayn Rand?
Alors, pour faire très court, les régimes fascistes ont gouverné dans le sens des intérêts des capitalistes, une bourgeoisie industrielle, agraire, etc. Mais il y avait quand même la volonté d'incarner aussi une troisième voie entre socialisme et capitalisme, qui passait notamment par l'invention du corporatisme, qui a été le concept clé de la plupart des régimes fascistes. Là, on est dans, me semble-t-il, tout à fait autre chose, c'est-à-dire une espèce de capitalisme triomphant. Ce n'est plus l'éthique du capitalisme, mais c'est le capitalisme sans éthique, c'est vraiment ce qu'on vient d'entendre. Et là, il y a sans doute aussi une nouveauté absolue, pour le coup.
David Chavalarias.
Alors, effectivement, il y a un phénomène qui est assez intéressant. On l'a entendu un petit peu là, dans l'extrait que vous avez fait passer, c'est une attaque contre aussi la notion d'empathie. C'est l'idée que, en gros, la compassion, l'amour du prochain, c'est mal. Et qu'en gros, c'est tout pour ma pomme, et puis...
C'est un individualisme radical.
Radical et
amoral. Ce qui n'est pas forcément en raccord avec le fascisme, d'ailleurs, l'individualisme radical. Si on peut parler de l'individualisme positif des Lumières ou de l'individualiste consumériste. Là, on n'est pas vraiment dans le fascisme.
Non, le fascisme considère que l'individualisme est quelque chose de négatif, oui, et que l'individu doit se fondre, effectivement, dans la nation. Mmh. Hein, donc, mais il y a quand même l'idée d'une certaine éthique aussi dans le fascisme, qui est l'éthique du collectif, justement, de la nation et de la collectivité. Et un rapport, si vous me permettez, compliqué quand même à la morale chrétienne et à la tradition chrétienne, dont on peut se demander là effectivement ce qu'il en advient pour le coup dans les discours qu'on a entendus.
Arnaud Miranda.
Oui, je pense qu'il y a une figure qui est un petit peu implicite à tous ces auteurs et qui fait peut-être le lien qu'on cherche, c'est la figure de Nietzsche qui est importante pour Rand et qui finalement est présente partout, chez les réactionnaires des années 20-30 qui ont été les intellectuels organiques du fascisme, chez les libertariens en particulier.
Expliquez-nous ça en quoi.
Alors Nietzsche, cette figure qui est très...
Les Nietzschéens vont être ravis.
Alors, je vais peut-être pas me risquer dans une description du Nietzschéisme, mais en tout cas une figure qui a été récupérée par des auteurs fascistes pour cette idée de dépassement de l'humanité, donc de la figure du surhomme, l'idée d'une volonté de puissance, d'affirmation de soi, qui a été relu alors dans un contexte différent par Ayn Rand, mais qui est interprété aujourd'hui par certains techno-libertariens, comme par exemple Marc Andreessen, comme étant très compatible avec la figure de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui s'affirme, qui est conscient des rapports de force et qui s'affirme comme un individu supérieur. Et donc il y a une forme de nietzschéisme qui est commune à toutes ces pensées.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in their car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Joe. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a buddy and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, got a one-way ticket to the promised land. Hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city going down. But the highway is alive tonight. The way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire. Waiting on the ghost of Tom Joe.
The Ghost of Tom Joad, un classique de Bruce Springsteen sur France Inter. Une chanson de 1995 qui évoque le héros des Raisins de la Colère, de Steinbeck. La culture de la gauche américaine existe bel et bien. Elle est un peu en sommeil depuis des années, on attend son réveil. Et le week-end dernier, lors d'un concert à Manchester, le boss Springsteen a lancé un appel.
In my home, the America I love.
Chez moi, en Amérique, l'Amérique que j'aime et sur laquelle j'ai tant écrit, celle qui a été le symbole de l'espoir et de la liberté depuis 250 ans, eh bien cette Amérique est aux mains en ce moment d'une administration corrompue, incompétente et traîtresse. Nous demandons à tous ceux qui croient en la démocratie d'élever leur voix avec la nôtre contre l'autoritarisme et pour la liberté.
Thomas Legrand sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Marianne Matar-Bonucci, Arnaud Miranda et David Chavalarias et nous nous demandons si le trumpisme est un fascisme. Alors, ça nous amène à la figure dont vous vouliez nous parler, Arnaud Miranda, c'est Curtis Yarving. Lui considère, on va écouter un premier extrait d'une interview très intéressante qu'il a donnée et qui a été un peu problématique au sein du New York Times parce que vous allez comprendre pourquoi en entendant le contenu de cette interview qui a été donc donnée au New York Times il y a quelques mois. Curtis Yarving considère que l'entrepreneur, c'est l'aristocratie de la nouvelle société et c'est finalement celui qui doit diriger le monde. Je vous propose d'écouter ce premier extrait. Pourquoi la présence d'un homme fort serait meilleure pour la vie des gens?
Je pense surtout qu'un gouvernement efficace est meilleur pour la vie des gens. Lorsque je demande aux gens de réfléchir à cette question, qu'est-ce qui autour d'eux a été mis en place par une monarchie? Ces entités que nous appelons des entreprises sont essentiellement de petites monarchies. Par exemple, vous voyez un ordinateur portable. Cet ordinateur portable a été fabriqué par Apple, qui fonctionne comme une monarchie. Je suis dans ce bâtiment et j'oublie de présenter mon meilleur argument en faveur de la monarchie, à savoir que les gens font confiance au New York Times, plus qu'à n'importe quelle autre source dans le monde. Or, comment le New York Times est-il géré? Il s'agit d'une monarchie héréditaire et absolue de cinquième génération.
It is a fifth generation hereditary absolute monarchy. Voilà, Curtis Yarving qui décrit ici donc la monarchie business, quoi. Dites-nous d'abord, Arnaud Miranda, qui est Curtis Yarving et qu'est-ce qu'il représente dans le monde intellectuel américain aujourd'hui?
Alors, Yarving, c'est d'abord un informaticien qui n'a pas de formation intellectuelle, théorique, philosophique ou autre, qui s'est converti en blogueur à la fin des années 2000. Donc, il a ouvert son blog sous pseudonyme d'ailleurs en 2007. Et alors, il va loin puisqu'il dit qu'il faut se débarrasser de la démocratie et entreprendre un changement politique de la démocratie vers la monarchie. Yarving considère que l'État n'est pas autre chose qu'une entreprise et que la démocratie, c'est une manière terrible de gérer une entreprise. Quand on a une entreprise et qu'on veut qu'elle soit efficace, il faut avoir un PDG à sa tête. Et il applique de manière analogique, finalement, cette logique entrepreneuriale à l'État en disant, finalement, la manière la plus efficace de savoir d'où viennent les décisions, de savoir où est contrôlé ou concentré le pouvoir, c'est d'organiser l'État de manière monarchique. Et avec ça, il enlève non seulement la démocratie comme fonctionnement politique, mais aussi tout ce qu'il appelle l'idéologie du progrès ou l'idéologie universaliste. Et donc, l'idée, c'est d'abandonner nos libertés politiques pour une forme de bien-être matériel, une forme de sécurité qui, selon lui, sera mieux garantie par un État monarchique que par un État démocratique qui est finalement très confus et dont l'identification de qui prend les décisions est assez difficile.
Alors, il y a une grande radicalité dans ce qu'on vient d'entendre et dans ce que vous nous décrivez, mais il faut savoir que il est influent, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas par hasard. Il est écouté, il est lu et il est admiré par des gens qui, en ce moment, sont aux manettes aux États-Unis.
Oui, c'est peut-être ça qu'il y a de plus surprenant pour ceux qui le connaissaient depuis quelques années, c'est que finalement, c'était un blogueur qui n'a été connu que des niches d'Internet, au début par des libertariens. Alors, il a fait des études universitaires, je crois qu'il ne les a pas terminées, mais il n'a pas surtout pas fait d'études théoriques. C'est-à-dire qu'il commence son blog en disant « je vais inventer une théorie politique », mais voilà, c'est de manière complètement autodidacte. Il a une volonté de montrer une certaine culture générale. Ses références sont quand même relativement limitées. Ce sont les libertariens et Thomas Carlyle, qui est un penseur du 19e siècle. Ce sont ses références principales. Mais sur l'influence qu'il a désormais, c'est ça qui est surprenant, c'est que finalement, il a connu une forme de mise en lumière qui n'est pas là par hasard, qui a été très entretenue par Peter Thiel, qui est son ami. Et Peter Thiel, finalement, l'a...
Donc Peter Thiel.
Peter Thiel, qui est cet entrepreneur de la tech californienne et qui a créé notamment PayPal, qui est à la tête
et
de
Palantir, qui a largement financé la campagne de Trump.
Et qui a à la fois financé la start-up de Yarving, la candidature de J.D. Vance au sénatorial, et qui a en effet été une figure dès 2016 d'ailleurs des campagnes de Trump. Donc c'est par l'entremise de Peter Thiel que Yarving a été finalement introduit au monde de la politique, ou en tout cas qu'il a été connu des figures politiques. Donc la principale, à mon avis, le vecteur principal de l'influence de Yarving aujourd'hui dans la nouvelle administration Trump, c'est J.D. Vance. Donc il l'a cité lors d'un podcast en disant que c'était cet intellectuel qui disait des choses très intéressantes. Il y a d'autres figures, notamment Michael Anton, qui est un lecteur de Yarvin, donc qui est directeur de la planification, je crois. Il y a aussi Marc Andreessen, qui est un conseiller informel de Trump, qui est un lecteur de Yarvin, qui a lui-même écrit un manifeste techno-optimiste qui est exactement dans la même veine néo-réactionnaire. Mais je crois que l'influence est la plus vicieuse, ou en tout cas la plus difficile à saisir, c'est finalement l'influence sur la nouvelle garde républicaine qui a été élevée dans la contre-culture Internet des années 2010, qui n'est pas le cas des principales personnalités politiques du premier mandat de Trump, et qui désormais arrive à la Maison-Blanche. Et Yarvin lui-même dit que son influence sur les personnalités majeures comme Vance est minime. Par contre, il dit avoir des contacts partout dans la nouvelle administration.
Alors, je voudrais vous faire écouter un deuxième extrait de cette interview passionnante donnée au New York Times il y a quelques mois. Et je voudrais vous écouter, vous entendre juste après Marianne Matarbonucci, parce que vous allez voir, il parle d'Hitler, de Staline, il parle de l'ancien temps.
Why Hitler was so bad, why Stalin was so
bad. Il est essentiel de comprendre que la raison pour laquelle Hitler et Staline étaient si terribles est liée à l'énigme du XXe siècle. L'histoire de l'ère de la démocratie au cours des 250 dernières années est complexe. On peut prendre du recul et dire qu'en Europe, depuis l'établissement de la civilisation européenne, entre l'an 1000 et 1750 environ, nous n'avons pas connu ce niveau de chaos et de violence. Ainsi, on ne peut pas séparer Hitler et Staline de la révolution démocratique mondiale dont ils font partie.
Et on continue à s'interroger en quête de politique sur le trumpisme. Le trumpisme est-il un fascisme? Nous sommes avec Marianne Matarbonucci, historienne spécialiste du fascisme à l'université de Paris 8 et directrice de la revue L'Alarmée. Nous sommes aussi avec Arnaud Miranda, docteur en théorie politique au CEVIPOF, et avec David Chavalarias, mathématicien, chercheur au CNRS, spécialiste des nouvelles technologies, du cyber et des algorithmes.
Thomas Legrand sur France Inter.
Alors, Marianne Matarbonucci, ici, Curtis Yarvin nous explique en gros que le stalinisme et le nazisme, le fascisme aussi, font partie de cette ère démocratique. Il y avait, avant l'ère démocratique, avant 1750, il y avait les monarchies. Après, il y a eu l'ère démocratique. Les horreurs du nazisme et du fascisme et du stalinisme font partie de l'ère démocratique. Et maintenant, c'est nouveau. Comment vous réagissez à cette vision des choses?
Je crois qu'on aborde là quelque chose qui est quand même très important dans le processus actuel, qui est la guerre culturelle qui est en train d'être livrée par un certain nombre d'acteurs et qui passe effectivement par une réécriture de l'histoire. Alors on peut citer l'executive order de Trump à propos justement de ce que doit être l'histoire dans les musées, les différents sites où il est question justement de l'Amérique, avec un discours qui est un discours totalement enchanté et qui évacue tout ce qu'il a pu y avoir justement de racisme, de violence, etc. Dans l'histoire des États-Unis. Je ne sais plus lequel de ces idéologues aussi a expliqué que Hitler était communiste, ce qui est une façon de tordre le cou.
Oui, mais c'est national-socialisme, on peut faire.
C'est une rengaine, c'est une vraie rengaine chez eux. C'est un étatisme, ce qu'ils appellent un démotisme parfois. C'est un
Donc on falsifie, y compris l'histoire du national-socialisme, sur un domaine que je connais bien, qui est celui d'Italie. Il y a eu une grande exposition sur le futurisme à Rome, où il était pratiquement pas question des rapports avec le fascisme. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très présent, qui était présent dans les régimes fascistes, puisqu'il y avait aussi une version officielle de l'histoire. Mais pour imposer ces conceptions falsifiées et tronquées, ils disposent de moyens que les ministères de la propagande de Goebbels ou autres, dont ces ministères ne disposaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, là, grâce aux réseaux sociaux, qui est tout à fait considérable.
Et c'est là que, David Chavalarias, vous devez nous expliquer les réseaux sociaux et aussi la mécanique algorithmique favorise des discours de réécriture, des révisions de l'histoire.
Alors, on ne peut pas dire, en tout cas, c'est difficile de dire si ça favorise ce type de discours en particulier. Ce qui est sûr, c'est que Musk...
Ça favorise le transgressisme, en tout cas.
Musk, en rachetant X, a fait un certain nombre de modifications dans ce réseau social, de manière à ce qu'il mette en avant à la fois sa personnalité et certaines autres personnalités de son bord politique. Il a aussi fait des modifications qui ont fait que X est devenu plus toxique, c'est-à-dire avec plus d'hostilité, d'attaques personnelles, etc. Mais surtout, ce que l'on peut voir, c'est que ayant la main sur toutes ces données, et pas, donc pas seulement X, mais comme je mentionnais tout à l'heure, toutes les données des agences fédérales, enfin, etc., ça permet maintenant à la fois un contrôle des populations et une identification des personnalités déviantes beaucoup plus puissante et automatique. Il y a aussi au sein de l'administration Trump l'idée qu'on va faire un gouvernement AI first, c'est-à-dire intelligence artificielle en premier. On va gérer les Américains et les discours des Américains par l'IA qui va permettre de exclure des personnes ou même à les exporter de manière automatique. C'est dont je parlais tout à l'heure, c'est le passage à l'échelle. Si vous voulez déporter, expulser 10 millions de personnes, il va falloir faire des choses automatiques. Là, en ce moment, par exemple, il y a des travaux pour essayer de centraliser non seulement donc les bases de données, mais aussi même l'accès aux services fédéraux américains, c'est-à-dire le login qui permet de s'identifier sur les différents services, de connecter ça à toutes les données des Américains de manière à pouvoir empêcher quelqu'un d'accéder à ces services si jamais il est identifié par une IA comme problématique. Donc on a vraiment une technologie qui se déploie pour contraindre les Américains, identifier ceux qui sont problématiques. C'est même peut-être déjà à l'œuvre aussi aux frontières pour les personnes qui rentrent. On sait qu'il y a plusieurs personnes canadiens, français, allemands, qui ont été juste refoulées pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et donc, ça fait partie d'un dispositif. Alors après, quel type d'autoritarisme ou totalitarisme ça relève, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas, c'est assez inquiétant.
Arnaud Miranda.
Oui, je pense que ce que je note dans cette intervention qui me frappe, c'est cette dimension techno-accélérationniste, en tout cas l'idée qu'on veut ce saut qualitatif vers une gestion informatique, numérique, du politique. Et ça, c'est présent dans la branche accélérationniste de la néo-réaction qui est incarnée par le philosophe dont je parlais qui s'appelle Nick Land et qui, lui, lit le capitalisme comme une force de déconstruction extrêmement puissante. D'ailleurs, c'est un auteur de gauche, initialement. Il hérite d'une lecture de gauche du capitalisme, mais finalement, il se convertit, en quelque sorte, à une position pro-capitaliste. Et pour lui, le capitalisme, c'est précisément la destruction de ses formes politiques. Et il encourage cette transition vers une sorte de fusion entre l'homme et la machine. Et l'État, ou en tout cas la forme politique qu'on pourrait imaginer dans le futur, c'est précisément cette intrication indiscernable entre humains et machines. Et donc finalement, de leur point de vue, la question du problème politique que ça poserait n'en est pas en fait. Enfin, ça n'est pas une question.
C'est intéressant et vertigineux ce que vous nous dites, parce qu'en même temps, il y a cette lutte contre le wokisme, je mets des guillemets évidemment, et contre la déconstruction. Donc il y a quelque chose d'à la fois très conservateur et d'éminemment révolutionnaire et fou.
C'est, tout à fait. C'est là où, en fait, se fait l'alliance de l'énigme dont je le parlais tout à l'heure, c'est-à-dire entre des catholiques conservateurs et des techno-accélérationnistes ou des techno-capitalistes. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Et en fait, finalement, les conservateurs trouvent dans la lutte contre le wokisme une lutte pour la préservation de leurs valeurs morales et religieuses. Les techno-accélérationnistes ne luttent pas contre le wokisme pour la même raison. Ils y voient un frein au développement du capitalisme. Pour eux, le wokisme est une forme d'universalisme moral, un frein moral au développement du capitalisme. Donc finalement, ces deux courants se rejoignent derrière la lutte pour le wokisme, mais pour des raisons qui sont assez différentes.
Alors c'est peut-être le thème du dernier extrait que je voudrais vous faire écouter de Curtis Yarving.
Je ne demande à personne de devenir un nazi, un antisémite ou même un misogyne. Il y a des cas dans lesquels notre jugement du passé est entièrement correct. Mais il y a aussi des périodes entières de l'humanité qui regarderaient ce que nous faisons et diraient « c'est fou ».
Curtis Yarving nous dit que si les hommes du passé voyaient ce qu'on fait aujourd'hui, alors il parle du wokisme là, où ces hommes du passé diraient qu'on est fou. Et c'est pour ça qu'il lutte contre le wokisme. Mais on peut imaginer aussi que les hommes du passé, s'ils voyaient ce que lui propose, diraient qu'on est fou. Et cette théorie politique a l'air d'être quand même assez peu cohérente, non ? Arnaud Miranda ?
Alors, je pense que de son point de vue, la critique qu'il formule, c'est une critique contre une forme de moralisation du politique. Il donne un nom à sa théorie qu'il appelle le formalisme. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut débarrasser notre regard sur le politique de toute empreinte morale, religieuse ou autre pour ne voir que des rapports de force, que des rapports de pouvoir. Et je pense que ce qu'il voit dans le wokisme, entre guillemets, sa critique, je mets évidemment des guillemets à wokisme, mais ce qu'il voit là-dedans, c'est finalement une forme d'universalisme moral qui nous rend incapables de voir le politique tel qu'il est.
Alors, on a une émission que vous pouvez télécharger sur le wokisme et on prépare une émission sur l'anti-wokisme pour dans quelques semaines. Je voudrais, pour finir cette émission, vous demander à tous les trois Est-ce que vous pensez que ce qu'on a décrit aujourd'hui peut créer une pensée politique un peu cohérente et pérenne? Ou est-ce que ça a l'air quand même assez erratique et de partir un peu dans tous les sens? Ou est-ce que ça va exploser? David Chavalarias.
Ce que l'on peut voir, c'est que ce qui est commun aux différents courants qu'on a mentionnés, c'est le fait qu'on s'autorise la répression contre ses ennemis politiques, à les traiter de wokisme ou quoi que ce soit, hein, sans aucune limite. Par exemple,
l'état de droit, tout ça.
L'état de droit est piétiné, évidemment. Donc, on a parlé beaucoup des immigrés. Donc, évidemment, il y en a qui ont été expulsés sans aucune forme de procès. Et même si c'est par erreur, l'État américain dit, c'est pas grave. Vous envoyez quelqu'un par erreur à la mort, c'est pas très grave. Mais même, ils commencent à aller chercher leurs anciens opposants politiques. Le mari de Kamala Harris s'est vu sortir du comité d'administration d'un musée sur la Shoah, par exemple. C'est un régime qui va après ceux qui l'imaginent comme ses opposants ou ses futurs opposants. Et avec les moyens de l'État. Et sans souci de la justice.
Et ça,
c'est inquiétant. Et ça, c'est un peu commun aux différents courants que l'on a vus.
Marianne Matarbolucci, le trumpisme, on le voit bien, c'est avant tout du commerce, des affaires, l'intérêt particulier de Donald Trump. C'était pas le cas des fascistes originaires.
Tout à fait. Ça, c'est en effet un élément nouveau, c'est-à-dire la politique d'abord comme négociation, comme business. Sur l'absence de cohérence idéologique, c'était la même chose pour le national-socialisme comme pour le fascisme, hein, même s'il y avait une doctrine officielle, mais ensuite il y avait une infinité de courants, ouais.
Et
de sensibilités.
C'était dans l'action qu'ils se retrouvaient.
Pourvu. Qu'on soutienne, effectivement, qui le parti, qui le dictateur. Donc la question est de savoir comment Trump va réussir ou pas à faire fonctionner ensemble cela. Et pour le moment, le processus le plus inquiétant, c'est toutes ces atteintes qui sont portées à l'état de droit. La xénophobie qui est quand même érigée en doctrine du gouvernement. Et une conception de la politique, et ça peut faire penser au fascisme, dans l'opposition entre amis et ennemis. Hein, quand même, ou même Trump, je ne sais pas si tous ces idéologues partagent ça, mais en tout cas, c'est l'impression qu'on a quand on entend Donald Trump.
Les bons, les méchants, les gentils, les...
On n'a pas d'adversaires, on a des ennemis.
C'est ça, soit on est contre eux, soit on est avec eux, mais...
Voilà.
Ah ouais, la binarité, quoi. Arnaud Miranda, est-ce que ces trois tendances que vous nous avez décrites au début de l'émission, celle incarnée par Bannon, celle incarnée par Musk et celle incarnée par J.D. Vance, peuvent survivre ensemble longtemps?
Alors je pense que c'est l'énigme, mais surtout plus encore que ces trois courants, je dirais que c'est la tension entre les techno-libertariens et les catholiques conservateurs, en tout cas les conservateurs religieux au sens large. Comment est-ce que des technophiles futuristes peuvent s'entendre avec des conservateurs? Ça paraît compliqué. Je pense en effet que une dimension très importante, c'est l'action. Là, il y a l'idée d'une transition politique qui permet d'unifier ces courants. C'est pour ça que la néo-réaction les unit, c'est-à-dire c'est l'idée de transformer, de sortir de la démocratie. Je pense que c'est ça qui fait le courant. Néanmoins, ça ne peut pas durer, à mon avis, s'il y a des lignes de fracture au sein de l'idéologie trumpiste, si on exagère et qu'on met un isme derrière Trump. Je pense que ça viendra de cette fracture entre les techno-libertariens futuristes et les conservateurs religieux.
Le trumpisme est-il un fascisme ou le véhicule d'une certaine forme de fascisme? On a essayé ce soir de donner quelques clés théoriques pour se faire une idée. Les signes sont là et c'est maintenant, bien sûr, à la société américaine de réagir. Les mois qui viennent nous diront si la Constitution, la démocratie, le corps social américain sont solides. La réponse à la question de ce numéro d'enquête de politique est donc à venir. Et ce numéro d'enquête de politique a été réalisé par Christophe Imbert aux archives sonores. C'était Franck Olivard et à la technique ce soir. Adèle Caglar et Jérôme Ragano. Programmation musicale Thierry Dupin. Tous les numéros d'Enquête de politique sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France et celui-ci est à ajouter à la série sur les fascismes qui compte déjà 3 numéros. Je vous retrouve dimanche, donc après le journal de 18h, il sera question de toute autre chose, l'exact contraire du fascisme s'il en était, le mutualisme. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.